Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravelli Lemel. Ravelli Lemel, bonsoir à vous. Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Ravelli Lemel, on arrive à une nouvelle paracha qu'on retrouve dans nos communautés chaque semaine. Cette fois-ci, on est à Nitzavim Vayeler. Et c'est un moment un peu triste, c'est le départ de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, avant de partir, a des mots où il exprime un certain nombre de choses qui sont évidemment des enseignements pour nous. Que dit Moshe Rabbeinu ?
Alors, c'est vrai qu'on est Nitzavim Vayeler, c'est deux parachiotes qui nous expliquent, enfin, dans lesquelles Moshe Rabbeinu va dire encore au peuple juif quelles sont les dernières recommandations qu'il a à leur faire. Derrière cela, on va voir Ha'azinu, ce fameux chant dans lequel eh bien, Moshe Rabbeinu annonce un petit peu l'histoire du peuple juif. Et après, donc, Vezot Avracha, les dernières bénédictions qu'il donne à toutes les tribus du peuple d'Israël avant sa disparition. Et là, dans cette paracha, eh bien, Moshe donc, rappelle au peuple d'Israël qu'ils sont tous debout face à Dieu, et bien sûr, tout le monde, il le dit clairement, vos anciens, vos jeunes, le Ovracha Bivrit Hashem, parce qu'il leur rappelle qu'ils vont littéralement passer par l'alliance avec Dieu. Et il va préciser « Asher yeshnopo v'asher enenupo imanu omedayom » qu'au fond, ce qui est en train d'être dit ici eh bien, va être là, et aussi bien pour ceux qui sont présents aujourd'hui dans l'histoire du peuple juif, c'est-à-dire nos générations à nous, que eux. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que Moshe Rabbeinu ne parle qu'au peuple qui va rentrer en terre d'Israël. Alors là, Moshe Rabbeinu précise bien, non, c'est pour ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui, mais bien sûr, c'est un message pour toute l'histoire du peuple d'Israël. Et de nouveau, Moshe Rabbeinu va mettre en exergue le danger que soit un individu, homme, femme, famille, ou alors même de manière beaucoup plus vaste, il dit au Shevet, ça peut être même une tribu, et cet individu voudra un moment se tourner vers d'autres divinités en disant « Shalom yiyedi ki bishriru ki bialer ». Ce verset est très très intéressant parce qu'il parle d'une forme de dialogue que l'individu aurait avec lui-même, dans lequel il dirait au fond « Shalom yiyedi, que la paix soit sur moi, ki bishriru ki bialer, car je vais aller suivant les inclinaisons de mon cœur ». Et là, bien sûr, Moshe Rabbeinu rappelle qu'à ce moment-là, eh bien, c'est tout le peuple d'Israël à terme qui peut être en danger. Et évidemment, il nous renvoie à toutes les catastrophes que cela peut générer. Au fond, on est ici face à ce que beaucoup n'ont pas envie d'entendre, c'est-à-dire que la conduite que l'individu va avoir, eh bien, aura un impact, non pas seulement au niveau de lui-même, mais au niveau du collectif, et que ça crée un principe de responsabilité. Et avec ces termes très intéressants, « Shalom yeli ki bishriru tibieler »« Que la paix soit sur moi, car j'irai suivant les inclinaisons de mon cœur. » On parle en effet de l'individu qui va dire « Bon, ok, Dieu a peut-être dit ceci, Dieu a peut-être dit cela, bon, mais d'accord, mais moi je fais ce que je veux. » Alors bien sûr, cet espace de liberté est là, mais cela montre bien, au fond, quelque chose qui est très bouleversant, parce que Moshe Rabbeinu parle à qui ? Il parle à la génération du Sinaï. Il parle à la génération de ceux qui ont vu la révélation, dont les parents ont vu la révélation, de cette génération qui a vécu à l'intérieur d'un système dans lequel, littéralement, on pouvait voir Dieu à chaque moment, à travers donc, tous les miracles qui étaient présents dans le désert. Et il dit qu'il y aurait peut-être parmi vous, ou alors plus tard. Donc ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, l'argument que certains vont vouloir annoncer, en disant « oui, non, vous comprenez, non, on n'y était pas, on n'est pas sûr, donc c'est la raison pour laquelle », eh bien, Moshe Rabbeinu nous dit « non, On peut éventualiser que même ceux qui ont tout vu, ceux qui ont été présents, eh bien, puissent malgré tout avoir envie de dire je fais ce que je veux. Très souvent, vous allez rencontrer des personnes qui disent non, mais si moi je voyais des miracles, mais si ceci, si cela, alors évidemment les choses seraient différentes, évidemment je fonctionnerais autrement. Et le texte nous montre bien que cette éventualité-là existe, même si on a tout vu. Alors, pourquoi au fond, qu'est-ce qui se joue là-dedans? Et on voit que c'est un point qui malheureusement sera présent dans toute l'histoire du peuple juif. Il y a ici en effet la problématique qui est au centre de l'histoire de chacun, qui est la notion de l'orgueil, le refus de se plier à quelque chose qui nous dépasse. Et c'est intéressant parce que même face à l'évidence, eh bien, il y a cette dimension d'orgueil qui est là et qui peut amener l'individu à fonctionner de telle manière à ce que sa perte puisse arriver. D'ailleurs, les maîtres nous disent que Dieu dit que, eh bien, celui avec lequel il ne peut pas être présent, si on peut s'exprimer ainsi, c'est l'orgueilleux. Alors bien sûr, l'orgueilleux ne peut pas vivre si Dieu n'est pas présent, parce que notre vie, c'est l'expression du désir que Dieu a que l'on soit. Mais intéressant de voir que le terme que les Chachamim utilisent là-bas, c'est en anivehu. Moi et lui ne pouvons être ensemble au même endroit. Pourquoi? Parce que dès le moment où l'individu exprime la notion de son moi, eh bien, il ne supporte pas qu'il y ait quelque chose d'autre en dehors de lui. Et à partir de là, on comprend bien quel va être donc notre enjeu. Notre enjeu va être justement d'être vigilant par rapport à cela, de faire en telle sorte de travailler sur cette notion d'orgueil. D'ailleurs, il est intéressant de voir tout l'âme de Rabbi Pinchas Meir, c'est-à-dire dans cette fameuse échelle des différents niveaux que l'individu doit grimper, si je peux m'exprimer ainsi, pour accéder à la dimension la plus élevée auquel il peut accéder dans sa vie, eh bien, cette notion de anava, cette notion de véritable humilité, elle est placée très très haut, parce qu'il n'est pas si simple d'y arriver, parce que dire à un moment, bon, ça va, je ne suis pas grand-chose, c'est relativement simple, mais être prêt à en tirer les conséquences et être totalement soumis à quelque chose qui nous dépasse radicalement, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors, une des raisons pour cela, eh bien, c'est parce que l'individu a cette illusion de pouvoir. D'ailleurs, le Talmud va nous dire Ha'ashirim do Hakim Peneshrina. Les gens riches écrasent les pieds de Dieu, littéralement, les pieds de la présence divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le moment où l'individu possède, dès le moment où il a, dès le moment où il est dans l'illusion du pouvoir, eh bien, il s'imagine qu'il joue un jeu égal avec Dieu. Et on rapporte l'histoire suivante. Un jour, quelqu'un est venu voir un maître et lui dit: qu'est-ce que vous voulez que Dieu puisse me faire? Je suis immensément riche, mais ma richesse, c'est les mines d'or, le diamant, l'immobilier, le high-tech, on aurait dit aujourd'hui, et puis en même temps, l'économie traditionnelle dans des magasins. Enfin, j'en ai partout. Donc, d'une certaine manière, si Dieu veut intervenir pour m'enlever ma richesse, il ne peut pas, parce qu'on ne peut pas tout faire s'écrouler en même temps. Et le maître doit le regarder, lui dire: tu as raison, c'est possible. Peut-être que Dieu ne pourrait pas t'enlever ta richesse, mais il pourrait t'enlever toi à ta richesse. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui souvent ne nous effleure même pas. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Talmud nous dit: Rabdou et Tachirim, il faut honorer des personnes qui, lorsqu'elles sont riches, eh bien, justement, ne tombe pas dans ce piège, parce que c'est pas si simple de comprendre qu'on n'est pas au-dessus de tout et qu'on n'a pas le pouvoir parce que l'on a un avoir. Et c'est vrai qu'on va voir d'ailleurs que dans l'histoire du peuple juif, eh bien, rares sont ceux qui justement réussiront à dépasser cette épreuve de penser qu'ils sont en effet complètement indépendants et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, donc, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit en tête de Paracha. Et les mots qu'il utilise après pour décrire ce qui peut se passer sont très durs. Lo yoveh Hashem seloach lo. Dieu ne lui pardonnera pas. Parce que tout simplement, il n'y a rien de pire que de dire je ferai ce que je veux. À la limite, quelqu'un qui est là et qui a son corps défendant, eh bien, n'a pas réussi à gérer le rapport à l'interdit. C'était trop tentant. Ou alors, c'est un problème de paresse. Il n'a pas trop envie de faire d'efforts. Bien sûr, on peut mieux faire, comme dirait l'autre. Mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que, eh bien, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas encore réussi à prendre le contrôle de son existence dans tous les domaines, aussi bien dans les efforts qu'il doit faire que dans les luttes qu'il doit mener. Mais ce n'est pas ici cette expression de l'homme y est lié qui bifferait route libiait l'air, que la paix soit sur moi, car j'irai suivant les inclinations de mon cœur, c'est-à-dire quelqu'un qui dit au fond, eh bien, c'est moi, fonction de ce que je veux, qui ferai les choses, et puis le reste, eh bien, je mets complètement de côté. Alors, on est à l'aube, évidemment, de Rosh Hashanah. Rappelons-nous d'ailleurs que ce dernier Shabbat de l'année est fondamental, et même celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, faites-le ce Shabbat, même le Shabbat d'après d'ailleurs. Pourquoi? Parce que, eh bien, si on fait attention de garder ce Shabbat, on est en train de dire que tous les Shabbatot de l'année sont importants, même si on n'a pas, pardonnez-moi, toujours réussi à les respecter. Mais surtout, surtout, c'est cette paracha qui est là. Elle est là pour nous rappeler, attention, voilà le point sur lequel nous devons travailler avant d'arriver à Rosh Hashanah, face à Shem, que nous puissions, chacune et chacun là où nous sommes, être vigilants par rapport à cela, faire en telle sorte de bien comprendre que nous dépendons du Créateur de l'univers, que nous avons ce bonheur et cette immense chance de pouvoir être là pour le servir et révéler sa présence dans le monde, et que cela nous ouvre à une fin d'année qui, Bezrat Hashem, augurera des choses merveilleuses, Bezrat Hashem, pour l'année à venir. Shabbat Shalom.
Amen, amen. Rav Eli Lemel, merci. On vous retrouvera la semaine prochaine avec tous les rabbanim qui font cette émission tout de suite avant Rosh Hashanah pour dire quelques mots sur cette grande fête. Mais j'ai déjà envie de vous dire Shana Tova.
Évidemment, Shana Tova déjà par avance.
Shana Tova, à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai. Shabbat Shalom. Rav Mordechai, vous voulez intervenir sur les fêtes de Rosh Hashanah. Et selon nos Chachamim, la fête de Rosh Hashanah, qui est donc la fête du jugement, c'est la fête de la vérité. C'est la fête de la manifestation de la vérité, qui est d'ailleurs un concept central dans la pensée juive, dans le judaïsme. Mais pourquoi? Pourquoi y aurait-il un lien direct? Il y a un lien direct entre Rosh Hashanah et l'idée de vérité.
Et oui, en effet, mon cher Bernard, c'est le moment de vérité. Voilà, c'est effectivement le moment de vérité. On lit toujours la paracha Nitzav Vayelech, donc ces deux parachas qui sont réunis en un seul et même, une seule et même paracha, d'une certaine manière, la plupart des années, en général, donc avant Rosh Hashanah. Nitzavim, elle commence par Atem Nitzavim. Vous tenez maintenant tous devant Hachem. Tout le monde est là. Atem, c'est la même lettre que Emet. C'est la vérité, c'est le moment de vérité. Alors, pourquoi ce moment est le moment de vérité? Parce qu'en fait, c'est le moment, et plus qu'un moment de jugement, c'est un jugement, c'est un moment dans lequel Hachem donne sa chance à tout le monde. Il faut bien comprendre l'essence même du jugement divin. Le jugement divin n'est pas le jugement des hommes. Le jugement des hommes, c'est un jugement qui met fin à une épopée. Un individu a mal agi, il est traduit devant ses juges et va aller en prison. C'est la fin d'une épopée. Le jugement d'Hachem, le mishpat d'Hachem, c'est un recommencement. Ou plutôt un recommencement. C'est-à-dire qu'Hachem va nous donner la possibilité de recommencer. Recommencer notre vie. Et donc on a eu un mois pour se préparer. Et au moment où j'enregistre, et je pense que quand les gens nous écouteront, il y aura encore quelques jours pour se préparer. Ben c'est un mois pendant lequel on prend des décisions. Pendant le mois de Elul et pendant les jours qui précèdent Rosh Hashanah, on a pris des décisions et on a commencé à les mettre en pratique. Comme si, en quelque sorte, on s'apprêtait maintenant à se comporter comme, finalement, l'individu qu'on a envie de devenir. Et c'est ça l'essence du jugement de Rosh Hashanah. Hachem remet tout à zéro et nous donne la possibilité de redémarrer, d'avoir un projet. Et la question fondamentale que chacun d'entre nous doit se poser avant Rosh Hashanah, c'est quel est mon projet de vie pour l'année prochaine? Je ne parle pas ici des investissements financiers, tout ce qu'elles ont entreprendre sur le plan familial, personnel, etc. Je parle ici sur le plan spirituel. Oui, effectivement, il faut faire des projets sur le plan matériel, mais il faut aussi avoir, en quelque sorte, une mapat adrachim, un chemin construit pour l'année prochaine sur le plan spirituel. On va prendre une ou deux décisions importantes, pas 30 ou 40, ça ne sert à rien, pas 10 ou 15, c'est déjà trop, pas 5 ou 6, c'est aussi déjà trop, une ou deux décisions importantes qui vont marquer notre quotidien et qui vont nous aider à grandir sur le plan spirituel. Et donc, on a un projet de vie. Et on va rentrer dans Rosh Hashanah avec ce projet de vie. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire cela? Ben, c'est tout simplement les trois textes importants qu'on va réciter durant la prière du Moussaf, la prière la plus importante de Rosh Hashanah, hein, c'est la prière du Moussaf, dans laquelle on va réciter des versets de Malchut, dans lesquels on va parler de la royauté d'Hachem, des versets de Zichronot, dans lesquels on va mentionner le souvenir, notre bon souvenir, en quelque sorte Hachem, et également un certain nombre de choses importantes dans l'épopée humaine, et également les Shofarot, des versets qui sont en rapport avec le Shofar, le moment où le Shofar est mentionné dans le texte. Le Shofar, c'est l'objet emblématique de Rosh Hashanah. C'est quoi Shofar? Shofar, ça se raccroche au mot Shibru et Ma'asechem, améliorer vos actions. Alors qu'est-ce que ça veut dire améliorer ses actions? C'est ce qu'on vient de dire. C'est qu'en fait, on nous demande de prendre des décisions, de commencer à les exécuter, et en fait de commencer à nous améliorer sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan de la construction personnelle. Et donc, en fait, ce qu'on va faire à Rosh Hashanah, c'est tout simplement de demander à Hachem de nous aider dans ce nouveau projet. C'est le jugement qui est celui de Rosh Hashanah. Alors bien sûr, dans Rosh Hashanah, il y a une dimension de crainte. Pourquoi? De quelle crainte on parle? J'invite chacun d'entre nous à se référer à ce texte du Sefer HaYerayim, un livre qui a été écrit donc par il y a un peu moins de 250 ans, le Sefer HaYerayim, le livre de la crainte. Et dans ce livre, l'auteur nous dit qu'on doit avoir vis-à-vis d'Hachem une crainte, qui est la crainte révérentielle devant le roi, qui a tout créé, qui gère tout, mais également une crainte mêlée d'amour. Et ça, c'est important de développer ce point-là avant Rosh Hashanah. Quand on regarde notre corps, le fonctionnement de notre corps, on regarde un peu notre existence, le monde dans lequel on vit, on voit que finalement, Hachem nous a gratifié, le Créateur nous a gratifié d'un monde qui est un monde merveilleux. On vit dans un monde merveilleux, on vit dans un monde où la nature est merveilleuse, le corps humain est merveilleux. La nature qu'Hachem a créée est merveilleuse. Et elle révèle, comme une peinture pour révéler le génie de son auteur, cette nature dans laquelle on vit, elle révèle l'infinie beauté, l'infinie grandeur d'Hachem. On le voit. C'est ça le monde dans lequel on vit. Quand le Rambam, Maïmonide, dit qu'il faut aimer Hachem, il faut regarder le cosmos, il faut regarder la nature, il faut regarder la perfection de cette création. Comme on s'émerveille devant des œuvres artistiques, des peintures, ou des musiques littéralement prodigieuses. C'est la même chose, il y a une espèce de symphonie prodigieuse ici. Mais en même temps, l'être qui a conçu cette nature, il a un projet. Un projet dans lequel il veut nous faire grandir. Il y a un point de départ dans l'histoire et un point d'achèvement dans l'histoire. La création du monde et l'avènement messianique. Et donc au milieu de tout ça, notre histoire tumultueuse dans laquelle nous on doit grandir, dans laquelle on doit s'accrocher au Créateur. Et donc c'est cette crainte-là qu'il faut développer. Le jour de Rosh Hashanah, à la fois l'amour de la création et du Créateur, mais en même temps la crainte devant la beauté, devant le génie, et devant le projet qui sous-tend cette création. Penzias, qui est un des deux scientifiques qui avait découvert donc les échos du Big Bang, disait « Ce qui est écrit dans la Bible, ça correspond tout à fait à ce que je vois dans la nature. On voit que ce monde a été créé par quelqu'un qui avait un projet. Et ben, ce projet, nous l'a réveillé un peu plus de 3300 ans dans la Torah, il nous l'a donné. » Et il nous le donne également, chaque année à Rosh Hashanah, il nous donne la possibilité de nous accrocher à ce projet. Alors voilà, c'est donc l'instant de vérité qui arrive, et c'est l'instant de vérité auquel on se prépare dans Atem Nitzavim avec Parashat Nitzavim Vayeler. Autre point important, et plus prosaïque celui-là, là c'est le thérapeute du groupe qui vous parle, mes chers amis, avant Rosh Hashanah, c'est littéralement la folie dans les maisons. On prépare, on a le ménage, etc. Je pense que les femmes sont assez exténuées, on a fait les courses, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, ça court dans tous les sens, etc. C'est en général l'occasion d'explosion. Moraï, mais Rabotai, mes chers amis, respirez. On ne peut pas rentrer en Rosh Hashanah en colère. Vous savez que la pire, moi je peux vraiment dire ça, les Mefarshim, les commentateurs sont tous d'accord avec ça, la pire des choses à Rosh Hashanah, c'est la colère. Et il y a de multiples raisons d'être en colère. On peut vraiment complètement louper son coup à Rosh Hashanah. Donc je vous invite toutes et tous à préparer Rosh Hashanah, la sérénité, prenez les devants, préparez vos courses, préparez tout ce qu'il y a préparé avant, de manière à ce que vous arriviez la veille de Rosh Hashanah, déjà prêt, et que vous puissiez aller sur les tombes des Tzadikim. Vous savez que c'est un grand minhag, un usage important la veille de Rosh Hashanah d'aller sur la tombe des Tzadikim. Vous allez dire, comment je vais faire, moi, à Paris, si je suis à Paris? Eh bien, vous allez sur la tombe de Rabbi David Zinsheim, qui est au Père Lachaise. Rabbi David Zinsheim a été le premier grand rabbin de France, et figurez-vous qu'il a tenu tête à Napoléon. Vous savez que l'objet de Napoléon avec la création du Grand Sanhédrin était de préparer un cadre juridique à l'assimilation des Juifs français. Et Rabbi Dinsheim a tenu tête à Napoléon. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Et il y a une arbre qui a poussé sur sa tombe. C'était un des plus grands rabbanim de ces 200 dernières années. Il y a eu beaucoup de grands rabbanim. Mais lui, il s'est particulièrement illustré par la sagesse et la force de caractère dont il a fait preuve face à Napoléon. Voilà, vous pouvez aller sur sa tombe. Évidemment, si vous êtes en Israël, vous savez où aller. Mais en tout cas, soyez prêts l'avant-veille de Rosh Hashanah pour que la veille de Rosh Hashanah, vous puissiez rentrer dans Rosh Hashanah dans une atmosphère de prière, de recueillement et en même temps de crainte et en même temps de joie. Oui, effectivement, parce que Rosh Hashanah est une fête. D'accord ? Et que c'est un moment où, si on vit les choses joyeusement, alors Hachem va voir qu'en vérité, on est en quelque sorte prêt à donner de la joie autour de nous, et on devient ce qu'on appelle un individu qui est, dont le peuple juif a besoin, parce qu'il dispense de la joie autour de lui. Voilà. À toutes et à tous, Shana Tova Metuka, que le Tov qu'Hachem nous donne tout le temps, nous parviennent toujours de manière douce, que Hachem nous aide à affronter avec beaucoup de force, c'est ça la douceur finalement dans l'épreuve, avec beaucoup de force et parfois même avec la joie nécessaire dans la vie quotidienne, toutes les épreuves qui pourraient arriver, et que nous ayons vraiment une année formidable pour Amisraël et pour chacun d'entre nous.
Rav Mordechai Biton, je vous remercie, vous qui êtes à Jérusalem, et je vous dis Shabbat Shalom. Et Rav Gay est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors Rav Gay, on va faire une coupure avec vous sur l'étude de notre paracha pour une raison qui en vaut bien la peine, pour une belle raison, puisque aujourd'hui c'est la Iloula du grand Ramin Sitruk, de Rav Sitruk.
Exactement, le 22 Eloul, il y a 7 ans, le Rav Sitruk nous quittait. Et je ne sais pas s'il faut dire que ce n'est pas... de parler de lui n'est pas aussi, n'a pas de lien avec la paracha. La paracha de Nitzavim est une paracha dans laquelle on parle de la Teshuvah. Akadosh Baruch Hu l'annonce, le prédit. Et comme le Rav Sitruk l'a rappelé très souvent, il y a 10 parashiot dans le livre de Devarim, elles correspondent chacune à un siècle. Et le siècle qui correspond à celle de Nitzavim Vayeler, donc le 7e paracha, c'est notre siècle, 1940 à 2040. Et on parle là-bas d'une teshuvah à venir. Et alors, c'est un truc qui m'est rappelé, voir et parler de ce retour dans la foi que l'on observe depuis maintenant déjà plusieurs dizaines d'années. Et donc, il fut lui-même un des grands acteurs de ce retour. Le Rav Zichrono Livracha avait de nombreux talents. Un talent que tout le monde reconnaît, c'est sa. Une qualité d'orateur. Il va bien au-delà de la qualité d'orateur. C'est vraiment un personnage qui, lorsqu'il parlait, ne laissait personne indifférent. Et même des personnes qui n'étaient pas très pratiquantes étaient attirées comme par un aimant, par ses paroles, sa bonne humeur, il y a son humour, il y a aussi sa façon d'être. Il avait une grande qualité, celle de paraître, on va dire, dans son temps. C'est-à-dire d'être le rabbin moderne, tout en étant rigoureux sur la pratique, en exigeant de lui un niveau élevé de pratique religieuse, mais quand même d'être lui-même un homme qui était proche et qui proposait un mode de vie tout à fait acceptable pour un homme moderne. Et en fait, c'est ça qui est très important, c'est que lorsque le rabbin est trop loin, trop éloigné des autres, de ses élèves, eh bien, effectivement, les élèves, c'est bon. Le rabbin, en prenant l'exemple de Baba Salé, des grandes figures du judaïsme marocain, qui s'est installé en Israël, et qui était un saint, le saint, le Baba Salé. C'est un homme qui mangeait très très peu, dormait pratiquement pas, enfin, un genre d'ange. Eh bien, même si on l'admire, eh bien, personne ne pense un jour à vivre comme ça. C'est vraiment réservé à une élite. Alors, ce truc, c'est pas du tout l'image qu'il donnait de la Torah du judaïsme. C'est au contraire un homme qui aimait la vie, qui aimait la vie terrestre aussi, qui était passionné de voitures, de foot ou d'autres choses, et qui le disait dans ses cours. Et donc, ça donnait aux gens le sentiment qu'on pouvait être pratiquant et quand même moderne et quand même vivre une vie, on va dire, qui ne changeait pas autant que ce qu'un Baba Salé aurait proposé. Et tout simplement, Baba Salé ne proposait ça pas. Baba Salé était quelqu'un qui était un saint, et tout simplement, leur truc ne présentait pas les choses du tout comme ça. Même s'il avait une grande intelligence envers lui-même, il présentait un judaïsme tout à fait, je dirais même, appétissant. Toujours, c'est quelque chose qu'on a envie de rejoindre. Une personnalité brillante, charismatique. Et également, un grand amour du peuple juif. Qu'il aimait, le répéter, qu'il aimait chaque juif profondément. Et les juifs lui le rendaient bien. Et je suis, à son gendre depuis de longues années, toujours impressionné par les personnes qui me disent qu'ils étaient très proches du Rav Stuck. Et en creusant un peu, je me rends compte que finalement, ils n'étaient pas si proches que ça. Parce qu'ils ne l'ont pas vu beaucoup et qu'ils n'étaient pas si proches, mais ils se sentaient vraiment très proches. Le Rav avait une façon d'aborder les gens et de donner des cours qui donnaient le sentiment aux gens qu'ils étaient uniques, ils avaient une relation très spéciale avec le Rav, alors qu'en fait, cette relation, il l'avait avec des milliers de gens. Cette force-là, de proximité, de capacité de toucher le cœur des fidèles et ce côté moderne, c'est des aspects de sa développement en main. Et finalement, il a transformé les cours. C'est des gens qui ne l'ont jamais vu, que lui n'a jamais vu, ont été touchés par ses cours. Alors qu'ils n'ont fait qu'écouter les cassettes, les box des cassettes. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui n'ont jamais connu font des efforts énormes, parce qu'on dit que les tzadikim, même après leur disparition, c'est-à-dire des vivants, ils continuent à influencer des gens d'une façon incroyable. Et c'est, je crois, aussi un grand rabbin de France. Il y a bien sûr répondre à Torah au plus grand nombre. On se rappelle les lundis, les cours du fameux cours du lundi, où le Rav pouvait réunir jusqu'à 2000 personnes, peut-être plus, à la Victoire, pour écouter un cours de Torah. Des gens, des jeunes venaient, des milliers de gens ont été touchés par ce cours du lundi soir. C'est ça, c'est une force incroyable, et c'est la paracha d'une famille. Pourquoi? Parce que le Rav, il avait aussi, parmi ses nombreuses qualités, une qui est très importante, qui est liée à la paracha. Atan une famille ayant kulchem, Moshe s'adresse au peuple juif en disant « Vous êtes debout ». Alors pourquoi il leur dit ça? Parce qu'ils viennent d'entendre 98 malik, des bénédictions dans le Tavo. Donc ils sont blancs de peur, de voilà, très impressionnés, et ils se posent des questions. Et Moshe leur dit « Non, vous êtes debout, soyez confiants, etc. » Et cette capacité de donner de l'optimisme à des gens qui sont souvent, on va dire qu'ils ne le sont pas, et cette capacité de lecture des événements ou de l'avenir qui est très optimiste et très résolument donner du courage à ces régionnaires, c'est vraiment une des qualités nombreuses du Rav Stuck, avec évidemment la capacité de trouver les mots et un peu comme ce qu'il y avait, je dis souvent, c'est un musicien qui fait une partition, cette partition elle touche énormément de gens, c'est une et voilà, son discours, c'était un peu un chant. D'ailleurs, je ne l'invente pas ce que je suis en train de dire. C'est un grand spécialiste de la communication qui me l'a dit. Il y avait une sorte de musique qui, au-delà des mots, touchait les cœurs. Et j'ajouterais qu'il y a une cohérence entre la façon de vivre et les mots et les idées prononcées. C'est-à-dire que les gens ressentaient qu'il y a une cohérence. Cet homme n'était pas juste un homme qui faisait de la morale à ses co-régionnaires, mais qu'il était lui-même vraiment convaincu et qu'il essayait, en tout cas dans ce quotidien, de vivre à la hauteur de ses ambitions spirituelles, etc. Et ça, c'était quelque chose de très important. Et pour toutes ces raisons, et beaucoup d'autres encore, cette disparition le 22 Elul, il y a 7 ans, nous a laissé un grand vide. Mais malgré tout, il continue à résonner, et des fois même encore plus que de son vivant, j'ai l'impression. Et depuis quelques années, grâce entre autres à Torah Box, mais d'autres encore, la diffusion de ces cours se fait encore, et beaucoup de gens le connaissent, l'apprennent, continuent à étudier grâce à lui. et à découvrir le judaïsme grâce à lui. Je trouve que c'est extraordinaire de voir cette puissance de transmission, ce leadership, cette charisme qui continue à traverser les générations. C'est tout simplement unique et incroyable. Et j'ajouterai en ce qui me concerne le politique de visionnaire, puisque c'est lui qui m'avait dit il y a plus de 30 ans que l'avenir du judaïsme parisien se ferait à l'ouest de Paris. Effectivement, beaucoup de juifs s'installent dans d'autres régions. Et ça, il fallait le voir il y a 30 ans, d'accord, c'était pas évident. Et c'est lui qui l'a vu, et comme il a vu beaucoup de choses, qui nous inspire aujourd'hui et qui font qu'aujourd'hui nous continuons à nous inspirer, nous inspirons au Bézor Hachem. Je passe tant d'attente de son exemple, de ses paroles, de sa générosité, de sa finesse. Et rappelons-nous que dans la paracha de Vayelech, la Torah est appelée Ata Kitru Lachem et Ashira Hazot. Écrivez pour vous cette chanson. Certains disent que ça se rapporte à la paracha de l'Azinot, c'est un chant. D'autres disent que ça s'appelle sur la Torah tout entière. Il doit être comme un chant, quelque chose qui est harmonieux. L'harmonie, cette capacité de trouver justement de la cohérence, de la, ce qui est symétrique et souvent harmonieux, cette capacité de montrer comment la Torah et nous, c'est-à-dire le commun des mortels, on est capable de vivre dans une symbiose et dans une cohérence et donc justement dans une harmonie parfaite. Et ça, je pense que c'est des gens qui l'incarnent et parmi eux, il y a évidemment le Rav Kouk qui l'a bien incarné, qui continue à l'incarner et à nous inspirer malgré son départ il y a 7 ans.
Moi, le grand rabbin, ces trucs, je sais qu'il faisait ça pour beaucoup, il me tutoyait et moi je le vouvoyais. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je n'ai jamais considéré comme, je ne sais pas, étonnant qu'il me tutoie. Et j'ai jamais imaginé que je pourrais faire autre chose que de le vouvoyer. Et j'ai l'impression que ça illustre parfaitement ce que vous dites. Il était... D'abord, je vais vous dire aussi autre chose, c'est que c'est, pour nous, hein, quand il venait à la radio, c'était toujours un événement. Quand il y avait le grand ramassé truc, c'était un événement en soi. D'ailleurs, lui faisait vivre cet instant comme ça. Et il faisait des choses qui étaient exceptionnelles, comme par exemple, vous dites... les cours, moi je l'ai vu à la mutualité devant 2000 personnes. Yom HaTorah, je voudrais savoir qui aujourd'hui est capable de faire un Yom HaTorah. Radio compris, je vois pas quelle radio peut faire aujourd'hui un Yom HaTorah avec des milliers de gens au salon du Bourget. Et on vivait ça toujours comme un événement, mais il arrivait, et ça rejoint peut-être ce que je vous ai dit sur l'idée que lui nous tutoyait et nous on le voyait, et il arrivait à rendre les choses avec. De manière tellement naturelle, on croyait que c'était naturel. C'est vrai qu'on vivait aussi à une époque où il y avait de très grands rabbanim. C'était l'époque du Rabbi de Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef. Et donc, on croyait presque... Enfin, je veux dire, on vivait ça naturellement, d'être avec quelqu'un qui avait cette force-là, tout en comprenant quand même qu'il était... qu'il avait quelque chose de plus, quoi. Mais on vivait cette... Ça faisait partie de nos vies comme... comme un événement, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, comme un événement naturel.
Tout à fait, Yom HaTorah, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il faut savoir que certains Yom HaTorah, d'après ce qu'on avait dit, c'est 50 000 personnes, certains, en tout cas pas tous. 50 000 personnes de la communauté qui arrivent à Yom HaTorah, c'est tout simplement incroyable comment quelqu'un arrive à être aussi rassembleur. Il n'y a pas que les religieux qui viennent, il y a tout au contraire. Des gens pas du tout pratiquants se reconnaissaient dans le discours du Rav. Et ça, c'est, comme je dis, malheureusement, lorsqu'on est dans le. Lorsqu'on vit ces événements, on pense que c'est normal et que c'est.
Réalité, oui, c'est très étonnant. Hein. C'est après qu'on dit, mais. C'est le manque qui nous montre l'importance de la chose.
Exactement. Souvent, malheureusement, on n'a pas toujours. Prend pas toujours conscience de la chance que l'on a lorsqu'on l'a, et effectivement, si la personne n'est plus là, on commence à se dire, mais finalement, est-ce qu'on était conscient de ce qu'on avait ?
Moi, par exemple, excusez-moi, je vous interromps de nouveau, je suis grossier, mais moi, par exemple, mon métier, c'est le journalisme. La façon dont il était capable d'être proche avec le président de la République, avec Jacques Chirac, ça nous semblait naturel. Bon, bah, le grand rabbin, il connaît bien, mais on ne devient pas amis comme ça. Puis même, on n'est pas capable d'avoir une telle influence, une telle... De convaincre comme un président de la République comme ça. Mais lui, il faisait ça, et ça nous semblait à la fois incroyable, on s'en doutait bien, mais à la fois naturel.
Tout d'abord que Jacques Chirac, on a vu à la maison chez le Rav Citru, venir consommer des petits gâteaux de ma belle-sœur. Et j'avais le sentiment, je les voyais ensemble, qu'il y avait le maître et l'élève. Le maître, c'était mon beau-père, et l'élève, c'était Jacques Chirac, qui écoutait avidement, comme s'il écoutait son maître. Et il avait une admiration pour le grand rabbin qu'il a exprimé un jour dans un dîner officiel, un dîner d'État. Il recevait Moshe Katsav, le président de l'État d'Israël. Et mon beau-père était présent. Il y avait des 200 convives, évidemment, triés sur le volet. Et à ce moment-là, Jacques Chirac il déclare à Moshe Katsav, très fort, hein, tout le monde a entendu, nous n'avons pas un grand rabbin, nous avons un grand, grand rabbin. Nous avons beaucoup de là appuyé sur mon père, donc il était vraiment très, très, il était plein d'admiration. Et on le sait tous, il avait toujours très peur de prendre la parole après mon beau-père, parce qu'il était maire de Paris. Le rabbin de Warszawie m'a dit qu'il a assisté, évidemment, c'était en off, hein. Et il voyait Jacques Chirac, maire de Paris, insister sur le fait qu'il ne voulait surtout pas parler après le grand rabbin de ces trucs, mais avant, parce que c'était compliqué de prendre la parole.
De faire aussi
après.
Brillant.
Oui. L'impressionnant, c'est moi, lorsque j'allais avec lui dans des rendez-vous officiels, c'était vraiment impressionnant de voir comment il prenait de l'ascendant sur n'importe quel ministre. Ils étaient tous sous le charme et impressionnés. La communauté juive, c'était un représentant.
On m'a raconté qu'un jour, il avait qu'une heure pour faire enterrer un juif avant Shabbat. Il a dit non, mais on va le faire. Et il a fait un truc incroyable. On m'a raconté, je ne sais pas si vous avez été partenaire de cette histoire. Il restait donc une heure, deux heures avant Shabbat, je ne sais pas combien. On a dit bon, c'est foutu, quoi. Voilà, on va l'enterrer samedi soir ou dimanche. Il a dit non, on va le faire maintenant.
Il a réussi à faire des choses incroyables parce que justement, les non-juifs ressentaient, voyaient chez lui vraiment un personnage exceptionnel. On connaît tous la relation incroyable qu'il avait avec Gaston Defer, maire de Marseille et ministre de l'Intérieur, qui a dit de lui c'est le fils que j'aurais aimé avoir. Il a eu une relation avec lui exceptionnelle. Mais pas seulement, j'ai vu énormément de gens et Jacques Chirac, comme vous dites, c'était aussi très 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 spécial. Je l'ai vu à des Britos, dans la maison, vraiment être comme monsieur tout le monde, mais vraiment par admiration, pas par calcul politique. Ah oui, je vais même vous dire quelque chose. Il lui a demandé de faire un. Tout le monde est étonné sur la victoire de Jacques Chirac en 1995. Je vais vous donner un scoop.
Oui.
Vous êtes une radio, vous êtes un journaliste.
Oui, oui.
Alors le secret de la réussite, elle se trouve dans le fait que Jacques Chirac rencontré mon beau-père et le Rav Citruc lui a donné un psaume à réciter avant donc le jour de l'élection et il a fait appeler la maison pour demander quel psaume à réciter.
C'est incroyable.
Il a récité, je ne rappelle plus quel psaume il lui a donné, mais il a récité son psaume d'une façon très, très sérieuse. Quoi. Il a pris à cœur cette. Il avait d'ailleurs Jacques Chirac quand même un mérite en tant que maire de Paris, il a offert quand même des terrains pour la communauté et pour les écoles juives qui sont vraiment extraordinaires.
Voilà. Bien, il faudrait nous retrouver pour que nous aussi on gagne. Pourquoi que Jacques Chirac lui donner le numéro.
Je ne savais pas vous présenter une élection.
Il y en a 150. Ils sont tous gagnants. Rav Gay, je vous remercie pour ces belles paroles sur Rav Citruc. Merci à vous. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter Shabbat Shalom à toutes et à toutes. Et je vous retrouve pour un journal enregistré à 18h.